Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de 2 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. À partir de quand as-tu réussi à concilier Miss France et médecine et y mettre du sang?
Il n'y a pas si longtemps. Comme quoi, hein, ça peut prendre plusieurs années de trouver vraiment son chemin et se sentir vraiment à sa place. Mais il faut pas abandonner, quoi. Il faut juste, comme on dit depuis le début, je pense, écouter sa petite voix intérieure. Et on peut avancer progressivement, pas à pas, sur un chemin. Et puis, à un moment, ça devient limpide, en fait.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Marine nous partage avec une grande authenticité les coulisses de son parcours, avec notamment ses doutes, ses peurs et ses angoisses. Aujourd'hui, elle est une femme épanouie qui a appris à être alignée et a réussi à trouver comment mettre du sens en alliant son expertise en tant que médecin et la force médiatique de Miss France. Mais vous verrez que cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers du docteur Marine L'Orphelin.
Bonjour Marine.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Écoute, j'ai choisi un objet qui est mondial, je dirais universel, un passeport. En fait, quand j'ai pensé à cet objet qui me définit ou qui définit ma vie et ma personnalité, j'ai pensé à un passeport parce que je suis un peu hyper active, j'aime toujours bouger, j'ai pas peur aussi de partir, de revenir, de on va dire de saisir un peu les opportunités où qu'elles soient. Donc voilà, je trouve que le passeport ça me représente pas mal.
Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, parce que tu as grandi?
Alors moi, j'ai grandi en Bourgogne, donc c'est une région plutôt rurale, plutôt très sympathique au sein donc de ma famille. J'ai la chance d'avoir deux parents super aimants une sœur et un frère. Donc on est trois enfants et on a grandi. Sincèrement, dans une famille que je qualifierais de normale, saine, voilà, comme je le disais, des parents aimants, des parents présents, qui, je pense, nous ont transmis de belles valeurs, des valeurs qui sont assez simples aussi, hein, mais qui sont importantes aujourd'hui à mes yeux. C'est celle de la famille, de l'entraide, du partage, du soutien aussi. Je pense que si je me sens aujourd'hui, si aujourd'hui je me définis aussi comme une femme indépendante, une femme voilà qui, comme je le disais, n'a pas peur de bouger, de se lancer des défis, de saisir des opportunités, c'est aussi parce que mes parents m'ont transmis, m'ont soutenue et donc m'ont rassuré, m'ont sécurisé. Je dirais, et donc m'ont permis voilà de devenir une femme vraiment pleinement épanouie. Je pense que l'éducation joue beaucoup quand même dans la personne que tu es, pas complètement, mais quand même beaucoup. Ouais. Et franchement, je leur dois beaucoup. Aujourd'hui, je suis consciente que c'est pas évident d'élever des enfants. J'en ai pas encore, mais je me rends compte que c'est pas évident. Et du coup, je les remercie de voilà nous avoir permis d'avoir une enfance chouette, voilà, heureuse et saine.
Bon, chouette. Et quel type de petite fille tu étais?
J'étais plutôt une petite fille. J'aime pas trop ce terme. C'est pas un terme qu'on a envie d'utiliser aujourd'hui, mais c'est juste pour que vous arriviez à me représenter. J'étais un peu garçon manqué. J'étais dans le sens où voilà, j'ai toujours été très énergique. J'aimais pas m'ennuyer, et d'ailleurs c'est un peu un souvenir aussi, un running gag qu'on a dans la famille. Mais j'étais du genre à pas réussir à m'asseoir sur le canapé plus de 10 minutes, et j'étais constamment en train de poser la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait. Donc oui, hyper active, assez sportive. Du coup, fallait que, bah, pour canaliser toute cette énergie, le sport était forcément un levier intéressant. Et après, très bonne élève, voilà, j'aimais bien aller à l'école, j'aimais apprendre, j'étais curieuse, et du coup j'étais plutôt bonne élève aussi. J'ai eu aucun problème à passer à valider chaque année, j'avais des bonnes notes, etc. Donc aussi un peu dans le rôle de la bonne élève et de la grande sœur pour mes frères et sœurs. Un peu la grande sœur qui voulait être un modèle, je dirais.
Tu avais déjà cette conscience-là de vouloir être le modèle?
Non, je pense que j'en ai pris conscience après. Mais c'est vrai que sur le moment, pas tellement. Je pense que c'est une envie de bien faire. Pas forcément d'être un modèle, mais une envie de bien faire. Mes parents m'ont donné quand même ce rôle aussi d'éduquer mes frères et sœurs. J'ai 4 ans d'écart avec ma sœur et 8 ans avec mon frère. Donc forcément, quand mon petit frère est arrivé, j'étais déjà une grande fille, on va dire. Et donc, j'ai eu aussi ce rôle de faire attention à lui, de le protéger, de l'éduquer. J'ai pas mal aidé ma mère quand même dans le quotidien. Et donc oui, j'ai pris ce rôle à cœur, mais je voulais pas forcément être un modèle. Par contre, c'est vrai que j'avais toujours envie de bien faire auprès de mes parents, à l'école, auprès de mes frères et sœurs. Mais je pense que ça fait partie de ma personnalité aussi de vouloir bien faire, de toujours me mettre, on va dire, un petit peu la pression. C'est valable dans tous les domaines de ma vie. Me mettre un petit peu la pression pour toujours bien faire, pour montrer que je suis capable, que je suis une bonne personne, voilà. Et je m'en suis pas rendu compte pendant mon enfance, mais c'est vrai que ouais, je me suis mis des petits coups de pression toute seule, parfois complètement inutiles, hein. Je sais pas, mais voilà, à l'école, dès qu'il y avait des examens, des choses comme ça, tout de suite c'était le gros coup de stress.
Et quand t'étais petite fille, c'était quoi tes rêves?
Très bonne question. Quand j'étais petite fille, je pense un de mes rêves, c'était de voyager, de découvrir le monde. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça fait toujours partie de moi, cette envie de découvrir ailleurs, de sillonner cette planète. Je sais pas, un autre de mes rêves, c'est peut-être exagéré de le qualifier comme un rêve, mais je dirais tout simplement d'avoir une famille heureuse, d'avoir un foyer. Je pense que c'est deux rêves pour le coup peut-être très simples et communs, mais juste ça.
Et tu disais, quand je serai grande, je ferai quoi?
Alors moi je suis passée par oulala, plein de métiers différents, plein d'étapes différentes. J'ai voulu être dans mon envie de voyage, forcément j'ai voulu être hôtesse de l'air. J'ai voulu être archéologue, j'ai voulu être commissaire-priseur. Je m'intéressais beaucoup à l'art, aux œuvres d'art. Donc à un moment, je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas un métier très commun, mais j'ai voulu être professeur de maths. J'ai voulu être aussi ingénieur, architecte. Et finalement, médecine aussi, ça a toujours fait partie de moi. J'ai découvert, on va dire, l'hôpital de l'intérieur quand j'étais ado. J'ai fait un petit séjour à l'hôpital, rien de grave, mais il m'a juste en fait fait découvrir ce métier plus dans le concret, et j'ai adoré. Enfin, j'étais hyper curieuse de comprendre ce qui se passait dans le corps, pourquoi t'as des symptômes, pourquoi t'es malade, comment on te soigne. J'étais vraiment j'étais fascinée en fait par le corps humain. Et donc j'ai aussi eu assez rapidement cette idée de me tourner vers un métier médical, enfin un métier de soins, et particulièrement la médecine. Et voilà. Et puis finalement, dans je dirais dans ma dernière année bac, où il a fallu faire les choix, ça s'est présenté à moi assez facilement. C'était médecine ou architecte urbaniste. C'est un double diplôme, ingé archi. Et finalement, le destin a décidé pour moi parce que j'ai pas été prise dans l'école que je voulais absolument pour archi ingé. Et voilà. Et donc du coup, je m'étais aussi inscrite en fac de médecine et donc je suis partie en médecine.
Et ton entourage, comment ils ont réagi quand tu t'es dit, quand t'as dit, allez, je vais en médecine? C'était pas, enfin, c'est des études, c'est noble, mais c'est dur, c'est.
Bah, ils ont pas forcément compris déjà parce que c'est vrai qu'on n'a pas de soignants dans la famille. Mes parents, voilà, ont des métiers très différents.
Ils font quoi?
Ma mère, elle travaille dans les ressources humaines et mon père est musicien. À la base, donc pendant plusieurs années, il avait une école de batterie, il donnait des cours de batterie. Et puis maintenant, il a changé de métier, mais voilà, c'est en tout cas, c'est plutôt un artiste. Ma maman est plutôt terre à terre dans les chiffres dans une entreprise et mon père est plutôt un artiste. Et oui, ils ont pas trop compris d'où ça me venait, mais ils ont effectivement été un peu inquiets face à la longueur des études et à la difficulté. Mais bon, étant donné que j'étais bonne élève, ça les a pas surpris non plus. Et je pense qu'ils m'ont fait confiance dans mon choix en fait. Et là où je les remercie encore une fois, c'est qu'ils ont tout de suite réalisé que oui, ça allait être des études difficiles et qu'ils allaient devoir être présents. Et ils ont été très présents, très aidants. Vraiment, ils m'ont donné tous les coups de main possibles et inimaginables. Ma maman, elle me faisait un peu la cuisine. Elle venait me faire le ménage parfois dans mon petit appartement.
Parce que du coup, t'as dû déménager.
Je me suis installée à Lyon dans un petit appart juste à côté de la fac de médecine pour justement être à proximité, gagner du temps, du temps de repos aussi. Et c'est là où mes parents aussi sont un peu sacrifiés parce que nous, je viens d'une famille assez modeste, je dirais, on n'a pas des revenus exceptionnels et ils sont sacrifiés parce qu'ils m'ont pris cet appartement, ils m'ont payé aussi la prépa, donc une prépa privée pour me perfectionner et pouvoir réussir cette année de médecine. Donc vraiment, ils ont investi sur mon avenir en termes de temps, en termes de moyens financiers. Et ouais, ils ont été exceptionnels, ils ont été au top.
Et comment ça s'est passé, du coup, cette première année de médecine, enfin la première année prépa ou avant de passer?
Écoute, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je suis pas traumatisée hein, de ma première année de médecine, contrairement à beaucoup d'étudiants.
T'en as eu une ou deux de premières années?
Aussi, parce qu'effectivement, j'en ai eu qu'une. Et donc, ça change un peu la donne. Mais non, disons que je me suis tout de suite plongée dans les études. J'aimais ça déjà. J'ai toujours aimé ça. Donc ça n'a pas été une difficulté supplémentaire pour moi que de travailler pendant des heures et des heures, de mettre en tout cas le degré d'investissement nécessaire. Et donc, je l'ai vécu plutôt bien cette année. Alors oui, c'était difficile, c'était intense. Je faisais des horaires de travail indécents. Enfin voilà, c'est 8h du matin le premier cours, des révisions jusqu'à 23h dans mon lit. Parfois, je m'endormais dessus. Donc oui, c'était très intense, j'ai fait ce qu'il fallait grâce à la prépa aussi, je pense que ça m'a aidé et puis j'ai validé cette première année de médecine. Donc pour moi, ouais, c'était mission accomplie.
Et t'avais une envie en faisant médecine en disant je vais être généraliste ou comment ça s'est passé pour toi?
Oui, j'avais plutôt une envie initiale de devenir pédiatre. J'aimais les enfants en fait et je trouvais que c'était un métier pour le coup qu'on pouvait en fait contrer un peu cette injustice. En fait, j'ai toujours trouvé que la maladie chez les enfants, c'est quand même l'injustice ultime. Des petits êtres naïfs qui ont rien demandé qui choisissent pas dans quel foyer ils grandissent. Et donc oui, je me suis dit que je vais aller devenir pédiatre pour justement accompagner ces petits bouts. Et puis je voulais faire de l'humanitaire, voilà, j'avais un peu ça peut paraître cliché de le présenter comme ça, mais voilà, j'ai toujours aussi estimé qu'on avait de la chance de vivre dans notre pays, j'avais de la chance d'avoir grandi justement dans un foyer stable aimant, qu'on a accès voilà à la médecine, aux soins, et donc moi j'avais envie de faire de l'humanitaire, de voilà partir en mission, de campagne de vaccination, voir peut-être même devenir chirurgien et aller opérer des enfants qui n'ont pas la même chance. Et finalement, j'ai évolué dans mon projet professionnel. Après, j'ai voulu être gynécologue parce que bah j'étais fascinée aussi par la grossesse, par tout ce qui touche à la santé de la femme. Et puis en fait, j'ai découvert le métier de généraliste pendant mes stages, puisque c'est un passage obligatoire quand on est étudiant en médecine. Et j'ai eu un coup de cœur en fait pour ce métier de par la proximité avec les gens, avec j'allais dire les vrais gens quoi, la vraie vie. Tout type de patients aussi, et donc ça répondait aussi à mon envie de soigner et les enfants et les femmes et du coup tout le monde. Et puis aussi un métier de justement qui laisse beaucoup de liberté d'exercice, différents modes d'exercice dans différents lieux. En fait, on peut exercer partout. Et la possibilité aussi de se diversifier dans son activité et de faire évoluer son métier au fur et à mesure, je dirais, de ses envies. Initialement, on peut être généraliste, avoir un exercice très classique. Après, on peut se spécialiser justement dans la santé de la femme, dans la santé de l'enfant, dans la médecine du sport, dans, c'est pas j'élargis même, mais dans l'esthétisme, dans, voilà, on a plein de possibilités de faire évoluer en fait son métier. Et donc c'est ça aussi qui m'a plu dans justement mon envie toujours de garder une forme de liberté et de me garder la possibilité de faire évoluer mon projet professionnel. Voilà, donc j'ai eu un coup de cœur pour ce métier. Et donc je me suis lancée. Moi, c'était vraiment un choix, hein, la médecine générale. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que quand on s'inscrit en fac de médecine, c'est pour devenir spécialiste et que si on devient pas spécialiste, c'est un échec ou c'est un choix par défaut. Bah, c'était pas du tout mon cas. Je suis vraiment ravie de ce choix et je l'ai fait en toute connaissance de cause et je regrette pas du tout.
Chouette. Et au milieu de tes études, du coup, tu as eu un événement dans ta vie qui change une vie. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, l'inscription au concours?
Alors oui, moi, je me suis inscrite, du coup, j'imagine que tu parles de Miss France.
Oui. À moins qu'il y ait un autre concours dont je ne suis pas au courant.
Non.
On ne sait jamais.
Ah oui, parce que vous ne savez pas que je suis une pro de la poterie. Non, je rigole. Je me suis inscrite, du coup, au premier casting, parce que c'est différentes étapes pour arriver jusqu'au prime de TF1 et à l'élection de Miss France. Au premier casting, j'étais du coup plutôt sur le troisième trimestre de mon année de médecine, de ma première année.
Ah, et oui, en du fait, coup, première année, ouais. Ouais, donc l'année
ouais,
qui est
intense, ouais. Ouais, j'étais en première année, mais en fait, justement, vu qu'en fait, c'est un process par étapes, en fait, c'était simplement participer déjà à un casting. Donc j'ai participé à ce casting, je m'en rappelle très bien, c'était au mois de mars. Et donc oui, en plein milieu de la première année de médecine, mais bon, ça m'a pris une après-midi, quoi, si tu veux, d'aller à ce casting. J'ai saisi encore une fois une opportunité qui s'était présentée à moi. J'avais été contactée, mais quelques années auparavant, par le comité régional, donc le comité Miss Bourgogne, qui m'avait fortement incité à me présenter. Mais bon, j'avais 16 ans à l'époque, j'étais pas du tout dans cette démarche-là. Je voyais pas du tout l'intérêt de se présenter à différents niveaux, je comprenais pas trop. Et encore une fois, j'étais un peu garçon manqué, donc ça rentrait pas dans ma personnalité. Enfin, j'avais l'impression de pas du tout correspondre à ce genre de concours. Et finalement, ma grand-mère était passionnée, on va dire, par tout ce qui touche aux paillettes, aux histoires de princesses des temps modernes, hein. Mais voilà, la famille de Monaco, la famille royale d'Angleterre, voilà, elle adorait Miss France, elle adorait, elle a toujours suivi et admiré les Miss. Et donc, elle m'a fait promettre d'essayer un jour. Quand je lui ai parlé justement de ce comité qui m'avait contacté,
comment t'avais repéré?
J'avais participé à un défilé de mode pour le Téléthon. En fait, dans ma ville, j'avais rencontré, mais complètement par hasard, et c'est pour le coup là, c'est vraiment Moi, cette histoire, en fait, mon lien avec Miss France, c'est vraiment une histoire de hasard. Et c'est ça qui est assez fou. De hasard et de destin en même temps, je dirais. De hasard parce que, en fait, si je te raconte l'histoire très rapidement, je me fais une entorse. Alors que, à l'époque, bon, voilà, j'étais sportive, mais je me blessais pas. Enfin, voilà, j'avais jamais eu d'entorse de ma vie. Je me fais une entorse, je vais chez le kiné. Le kiné me dit, tiens, j'ai un ami qui cherche des profils comme le tien. T'es grande, t'es plutôt élancée. Ils cherchent voilà des jeunes filles pour un défilé qu'ils organisent pour le Téléthon, donc dans ma ville. Elle me dit tu devrais aller le rencontrer, déjà juste le rencontrer et voir si ça peut te plaire. Bon, du coup je me dis oh mais tiens pourquoi pas, c'est rigolo, ça correspond pas du tout à ce que je fais et encore une fois le milieu dans lequel je me sens à l'aise. Mais je me dis ça peut être sympa, c'est juste un défilé pour le Téléthon, c'est une bonne
c'est
action.
L'expérience.
Voilà, c'est l'expérience. Donc je vais le rencontrer, ça se passe hyper bien, c'est quelqu'un de très sympa, qui me met en confiance. Il me rassure sur justement ma féminité entre guillemets, parce que moi je lui dis mais je sais pas du tout défiler avec des robes de créateur, je sais pas marcher avec des talons, je me suis quasiment jamais maquillée de ma vie. Et il me rassure, il m'apprend en fait tout simplement à me sentir à l'aise. Et donc on participe à ce défilé et en fait il poste des photos sur Facebook et le comité Miss Bourgogne le suivait puisque bah voilà c'est quand même quelqu'un qui faisait défiler des jeunes femmes et donc le comité Miss Bourgogne cherche un peu les nouvelles candidates et me contacte en fait via les photos et je leur réponds tout simplement bah merci je suis flattée mais je suis pas certaine de vouloir me présenter un jour je correspond pas à ce type de concours et voilà. Et puis du coup bah voilà ma grand-mère me dit ah, tu devrais le faire donc elle me fait faire la promesse vraiment elle me dit tu me promets donc je dis ok je te promets je vais me présenter un jour au moins au casting je te dis pas que ça ira plus loin mais et en fait ma grand-mère décède alors que c'est pas forcément attendu et du coup l'année d'avant en fait elle décède et donc du coup je me dis qu'il faut que je le fasse, il faut que j'honore au moins cette promesse. Donc je me retrouve en première année de médecine et c'est vrai que cette année comme je le disais, elle est difficile quand même, elle est pas très funky quoi. C'est pas l'année tu commences ta vie étudiante et tu t'amuses, tu fais des rencontres, tu sors, c'est plutôt tout le contraire, tu es enfermé à la BU toute la journée avec t'as rencontré 4 personnes, c'est ton petit cercle d'amis et tu connais personne d'autre. Et donc je me dis en fait bon bah cette année de médecine sympa mais j'ai un peu l'impression de passer à côté de ma vie, de pas profiter en fait, de pas vivre d'expérience, de pas rencontrer suffisamment de personnes, d'être un peu enfermée justement dans ce microcosme des études de médecine. Et du coup bah je me dis allez je vais aller au casting, ça m'engage à rien, en tout cas ça allait pas perturber ma première année puisque l'élection était finalement l'été d'après, donc j'étais en vacances. J'avais un peu calculé mon coup en me disant ça perturbera pas trop le déroulé de cette année. Voilà. Et puis en fait, finalement, je passe les étapes une à une sans trop m'y attendre.
Ouais, ça a été une surprise pour toi?
Ah oui, ça a été une grande surprise parce que comme je le disais, j'avais pas confiance en moi, en tout cas sur cet aspect de moi, c'est-à-dire simplement la femme qui était plutôt cachée à l'intérieur parce que Miss France, ça reste un concours de beauté, un concours de féminité, et j'avais pas du tout pris conscience de cet aspect-là en fait autour de ma personne. Pour moi, je me trouvais pas moche, mais je me trouvais pas non plus belle. Je me trouvais plutôt ok. Et puis oui, comme je le disais, j'avais pas forcément tous les attributs de la féminité, et je les avais pas développés. Et aujourd'hui, c'est un discours qui peut paraître inadapté aujourd'hui quand on parle plus d'attributs de féminité ou voilà justement on essaie de se détacher de ça. Mais il y a 12 ans, quand j'ai participé au casting, c'était encore vraiment le cas.
Ah bah c'était donc, oui. Le moment des maillots, c'était un des critères quoi.
Oui, voilà. Il y avait encore les maillots de bain. Il y avait encore. Enfin bon, ça existe encore aujourd'hui, mais on a quand même vachement évolué aujourd'hui sur le concept de féminité et justement de liberté, de que la femme peut être plurielle et différente et qu'on n'est pas obligé justement de rentrer dans certaines cases de la féminité, mais à l'époque c'était quand même encore beaucoup le cas. Et donc oui, ça a été une surprise de remporter déjà la première élection, donc départementale, d'être qualifiée pour la régionale, de remporter la régionale et de me retrouver qualifiée à Miss France. Et en fait, moi, j'ai vraiment vécu chaque étape juste comme une expérience, en me disant, moi, j'avais pas l'objectif de devenir Miss France. C'était pas du tout, ça faisait pas partie de mon plan de carrière, mon plan de vie, vraiment loin de là. Et par contre, je me suis laissée porter. Voilà, je me suis laissée porter. J'ai vécu toutes ces étapes en prenant le positif, un apprentissage aussi de vie. Et donc voilà, je suis arrivée à Miss France et après j'ai été élue et là c'est le destin quoi. C'est le destin qui prend les choses en main un peu. T'as l'impression en fait là de j'ai pas l'impression d'avoir enclenché cette victoire. Je suis restée moi-même. J'ai pas l'impression d'avoir tout fait pour gagner. Encore une fois, je l'ai vécu vraiment avec un peu de détachement, sans grands enjeux en tout cas pour ma part. Et donc oui, là j'ai eu l'impression que c'est vraiment le destin qui a pris le contrôle de ma vie.
et là, quand t'es élue, tu te dis, tu sais que tu vas reprendre médecine. Comment ça se passe par rapport à ton plan de carrière entre guillemets?
Bah, je suis un peu paniquée justement vis-à-vis de mon plan de carrière, parce que bon, j'avais quand même prévenu la fac hein, que je partais sur le concours et que du coup j'allais être absente déjà pendant un mois de préparation. Donc, ils étaient quand même au courant, mais là d'un coup, oui, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que va devenir ma vie en fait? C'est quand même un grand saut dans l'inconnu. Tu déménages, donc, j'ai déménagé à Paris. Tu vis une année très riche en expérience, en rencontres, une année aussi un peu à mille à l'heure où tu fais plein de choses différentes, mais qui sont pas du tout moi qui ne correspondaient pas trop justement à mon domaine. La santé, les miss, à première vue, on se dit ça n'a rien à faire ensemble. C'est deux milieux totalement opposés. Et donc, je voyais pas comment j'allais faire le lien et comment j'allais et vers quoi ça allait m'amener tout ça. Donc oui, en fait, je me suis fait la promesse, du coup inverse. J'ai fait la promesse de participer au Miss. Après, je me suis fait la promesse de reprendre mes études de médecine. Et c'est un sujet qu'on a abordé tout de suite avec Sylvie Tellier, qui en fait m'a dit, écoute, voilà, t'as l'air brillante, t'as l'air motivée. Tu es par ton métier, tu as réussi ta première année du premier coup, tu étais bien partie, et elle m'a dit tout de suite, écoute, il faudra que tu reprennes tes études. Mais tout de suite, vraiment, je venais d'être élue depuis quelques jours. Et tout de suite, elle m'a presque imposé cette idée, mais pour me convaincre, en me disant, on en reparle dans quelques mois, mais on essaie d'acter ça.
On sème la graine, ouais. On sème la graine tout de suite et, ouais.
Exactement, on sème la graine. Et je pense qu'elle a eu raison. Et à ce moment-là, au début de cette année, mais à la fin aussi, mon entourage a été vraiment un facteur clé en fait de la suite justement de ma vie, déjà de la reprise de mes études, et ensuite de toutes les décisions que j'ai pu prendre par la suite. En fait, je pense que c'est absolument essentiel d'être bien entouré de personnes qui ont la capacité en fait de réfléchir, de penser loin. Des personnes qui te connaissent bien et qui sont capables justement de te guider dans des moments où où tout paraît flou, où tout peut partir un peu en vrille, quoi. C'est pas très bien dit, mais comme ça vous comprenez un peu. donc oui, en fait, dès le début, je me suis convaincue et on m'a convaincue de reprendre les études de médecine. Et ça a donc du coup été plus simple de le faire à la fin de l'année. Ouais.
Et la fac, ils l'ont accueilli comment quand tu leur as dit que tu allais partir un mois?
J'ai été étonnée, mais la fac m'a très bien accueilli cette nouvelle, m'a bien soutenue justement dans mon projet, enfin, en tout cas dans cette année différente, tout simplement parce qu'ils avaient déjà l'habitude d'avoir d'autres profils, notamment des sportifs de haut niveau, dans leurs inscrits. Et en fait, ils accompagnaient déjà ces sportifs de haut niveau dans un cursus universitaire adapté. Et donc, ils m'ont proposé de faire exactement la même chose. Ils m'ont dit, écoute, profite de ton année, c'est considéré comme une année de redoublement ou une année de césure ou voilà, c'est pas un problème en tout cas de faire une année de pause à la faculté. On rediscute à la fin de ton année pour voir comment on fait pour une reprise accompagnée, une reprise en douceur.
Ouais, oui, parce que tu passes d'un grand écart, c'est plus la même vie, quoi.
Et justement, là encore une fois, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, je suis tombée sur un doyen, le doyen de la faculté, qui était hyper compréhensif. Vraiment, il m'a rassurée. Il a été exceptionnel. Oui, ça aurait été un gros problème pour moi si la faculté n'avait pas accepté, m'avait mis des bâtons dans les roues et m'avait dit, ben non, tu dois te débrouiller, tu dois mener tes cours en parallèle de Miss France. Enfin, là, pour le coup, je sais pas comment j'aurais fait. Et là, j'ai pu profiter pleinement de mon année. Et après, j'ai pu reprendre aussi assez sereinement la faculté. Donc là, encore une fois, j'ai vraiment eu de la chance et je remercie vraiment aussi cette personne qui a compris tous les enjeux.
Ouais. Et ça se passe comment, du coup, quand tu retournes sur les bancs de l'école, t'as perdu ton anonymat?
Ah là, oui, j'ai complètement perdu mon anonymat. C'était très perturbant pour moi. Et je me suis quand même beaucoup interrogée pendant facilement 2-3 ans. Moi, ouais, peut-être vraiment 3 ans, si je suis honnête, sur justement ma carrière, en fait. Où était ma place? Où était ma place? Quel était mon projet vraiment professionnel qui, quand même, avait évolué après une année aussi riche? J'ai pu découvrir plein d'autres métiers, j'ai pu discuter avec plein de personnes différentes et forcément, ça m'a profondément changé. Ça m'a fait grandir beaucoup plus vite, ça m'a ouvert l'esprit, les yeux en grand sur le monde, sur ce qui se passait un peu ailleurs.
Sur les belles choses et les moins belles, j'imagine.
Ouais, les belles choses et les moins belles, ouais, complètement. Mmh. Et donc je reprends, ok, la faculté parce que j'en ai envie, parce que c'est un métier qui m'a toujours attirée, parce que ça faisait partie de moi aussi. Mais en fait, il y a quand même un moment où je m'interroge, où je me dis, attends, t'as vécu tout ça et là tu retournes sur les bancs de la fac. À quoi ça a servi du coup de vivre tout ça? Est-ce que vraiment je vais m'épanouir du coup dans des études de médecine qui quand même sont initialement pas ultra excitantes quoi, qui sont quand même c'est beaucoup de travail sur dans à la bibliothèque, sur les livres, beaucoup de bachotage. Donc bon, ça manque un peu de fun hein, quand même tout ça. Et donc ouais, je me suis interrogée pendant pas mal de temps. Hein. Ça a été difficile cette période parce qu'en fait, j'arrivais pas à mettre du sens en fait. J'arrivais pas à mettre du sens dans tout ce que j'avais vécu en fait. Je me disais mais pourquoi en fait là cette première année de médecine, une année aussi exceptionnelle que Miss France, revenir sur les bancs de la fac. Ouais, il fallait que je crée une histoire, il fallait que je raconte quelque chose et que ça ait du sens que j'avais pu vivre. Mais j'étais trop jeune, j'avais 20 ans pendant mon année de Miss France. Et du coup, j'arrivais pas, en fait, à comprendre où tout ça allait me mener. Et donc, je me suis dit, avance, accroche-toi à ton projet professionnel initial parce que je voulais rester la personne que j'étais avant, en fait. J'avais aussi peur de trop changer, de me perdre un peu. Donc j'ai eu besoin de me retrouver, donc je me suis raccrochée à la personne que j'étais avant. Et donc je me suis dit accroche-toi à ton projet professionnel qui était de devenir médecin. Donc continue. À côté, j'avais mes parents notamment, enfin mes proches qui justement me rassuraient dans cette voie-là en me disant tu as raison, c'est important quoi qu'il arrive d'avoir un métier, d'avoir ce diplôme. Tu auras le choix aussi après de peut-être faire autre chose, de te lancer dans une autre carrière, mais ça va te donner quand même un socle en fait important et pour toute ta vie après t'auras un métier et en même temps j'ai quand même continué aussi en parallèle, j'ai pas renoncé en fait finalement aux opportunités que j'avais pu avoir suite à Miss France et donc j'ai continué à être une ambassadrice on va dire, donc j'ai continué à participer à plein d'événements, à soutenir des associations, à aller dans des galas de charité, à monter des projets avec des médias très variés, mais j'ai continué en fait avec un planning millimétré j'ai réussi à m'organiser et à mener, on va dire, de front un peu ces deux vies, mais complètement différentes à la base, que j'arrivais pas à croiser, mais que j'arrivais à mener en parallèle.
De vie séparées jusqu'à ce que ça se croise. Ce qui est amusant, c'est que quand tu racontes ton histoire, c'est que tu dis que ça, finalement, ça a mis France, ça a commencé avec la médecine, avec le téléphone.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais.
Tu dis
Ouais,
que,
c'est
ouais,
dingue. Ouais, c'est dingue. Et puis ça a commencé sur vraiment pas grand-chose en fait. Sur voilà cette l'événement déclencheur, c'est cette entorse qui a fait effet boule de neige en fait. Enfin, c'est l'effet papillon, mais c'est ouais, c'est assez dingue de se dire que ton destin il tient finalement à pas grand-chose parfois. Mais en fait, quand je pense, moi je crois beaucoup en fait au destin. Mais en fait, je crois beaucoup au fait d'écouter les signes et de saisir les opportunités qu'on te présente. Je dis pas que ça fait pas peur, hein. Ça fait peur parfois de se lancer justement dans des aventures de vie qui sont totalement différentes, se lancer dans un secteur qu'on connaît pas, avec des personnes qu'on vient de rencontrer, voilà. Mais j'ai toujours eu un feeling. Je sais pas comment l'expliquer. C'est à l'intérieur de moi, mais encore aujourd'hui, hein. J'ai un instinct en fait un peu qui me pousse dans enfin vers certains chemins en fait. J'ai une petite voix intérieure qui me dit là tu vas t'amuser, là ça va bien se passer, là et puis au pire qu'est-ce que tu risques? Moi j'ai souvent aussi cette petite phrase qui me revient. Au pire qu'est-ce que tu risques? Bah pas grand-chose. Tu risques d'être déçu, tu risques quoi, tu risques ouais d'être déçu de certaines personnes, d'être déçu de pas réussir ton projet, tu risques l'échec. Bon, si t'as suffisamment confiance en toi, si tu te sens suffisamment sécure, tu peux accepter ça, la déception, l'échec. Donc oui, il y a une partie de destin, mais il y a une partie aussi de confiance en son destin et d'arriver à écouter un peu sa petite voix intérieure. Et de se lancer. Mais parce qu'il y a toujours beaucoup de personnes, enfin j'en parle souvent avec plein de personnes différentes, mais qui me disent comment t'en es arrivé là? Parce que sur le papier, on comprend pas trop, en fait. Mais ouais, tout simplement parce que j'écoutais ma petite voix intérieure. Je disais, bah tu vas t'ennuyer, tu devrais vivre autre chose, tu devrais. Ouais.
Oh, chouette. Tu prêches une convaincue, il faut écouter les signes en effet. Et oser, parce que si on n'ose pas, il ne t'attrape rien.
Oui, à différents degrés et dans différents aspects de sa vie,
Ah,
mais
je
oui, je
pense dans
pense qu'il
tous les
faut
aspects. Ouais. Écouter son corps, on ne sait pas, c'est pas un médecin que je vais l'apprendre. Mais
ouais. Non, non, mais complètement, complètement. Les signaux peuvent venir effectivement du corps, hein. Si tu ressens un stress au contact de certaines personnes, c'est peut-être que ces personnes-là, elles te sont nocives, ou en tout cas, elles sont pas bienveillante comme tu pourrais l'imaginer. Écoutez, ouais, son, je sais pas comment définir en fait cet instinct. Parfois, tu vois, c'est très bizarre et c'est vraiment anecdotique, mais tu vois, il m'arrive parfois de retarder certaines petites choses. Par exemple, je sais pas prendre un billet de train. Parce que je sais pas, par exemple, j'ai un événement qui est organisé à telle date, et bon, j'ai de la chance, moi, je suis accompagnée par une manager et tout dans mon quotidien, donc elle m'aide vachement à m'organiser sur dans tout ce que je fais. Et elle me dit, t'as pris ton billet, etc. Je dis, non, je l'ai pas encore pris. Je sais pas pourquoi je le prends pas, tu vois, parce que je sais pas, j'ai un feeling. En fait, je me dis, je sens que cet événement il va pas se faire, ou alors je sens que ça sera pas cette date-là. Et ben moi, tu vois, là, c'est vraiment un exemple. Banal, on s'en fiche quoi. Mais j'ai vraiment cette espèce d'instinct qui me fait parfois prendre des décisions très rapidement ou au contraire retarder d'autres parce que je sais pas, je le sens pas quoi.
T'as une intuition super développée.
J'ai l'intuition, ouais.
Ça se développe en plus, du coup, c'est chouette.
Oui, je pense que on apprend à être à l'écoute de ses ressentis, soit physiques ou émotionnels. On doit effectivement absolument être plus à l'écoute. Et pour ça, faut ralentir. Il faut savoir ralentir le rythme parce que si tu es tout le temps dans un rythme de vie très intense, un planning ultra chargé, toujours connecté aux autres et jamais à toi-même. En fait, si t'as jamais un espace en fait de respiration, de réflexion, d'apaisement, t'arrives pas à être à l'écoute en fait des signaux. T'as pas le temps en fait d'écouter ce qui se passe dans ta tête ou d'écouter ce que dit ton corps. Et donc moi j'ai appris aussi, mais ça m'a été imposé en fait. Hein, moi il y a un moment où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Et ça, c'était le signe en fait qu'il fallait absolument que je ralentisse et qu'il fallait que j'écoute un peu plus mon corps en fait et qu'il fallait que je fasse des choix, que j'arrive à dire oui, à dire non, que je fasse des choix pour moi et moins pour les autres. Et donc moi, ça m'a été imposé, tu vois, ces moments de calme et de réflexion, mais ça m'a fait vraiment évoluer et ça m'a fait ça a changé justement le prisme sous lequel je vis au quotidien.
Ouais. D'ailleurs, tu en parles bien dans ton livre, ton dernier livre En pleine forme, sur tes crises d'angoisse, sur le fait que au fur et à mesure, ton corps a commencé à te hurler dessus.
Oui, j'en parle dans mon livre. Je traite en fait beaucoup la santé physique, mais aussi la santé mentale, et je fais le lien un peu entre les deux. Et la crise d'angoisse, c'est l'exemple type du lien en fait entre le surmenage psychologique qui s'exprime par des symptômes physiques. La crise d'angoisse, elle survient quand tu t'y attends pas. Tu sens pas forcément que t'es en surmenage, que t'es en grande fatigue physique et psychologique. Et justement, bah c'est ton corps qui d'un coup s'active et te montre qu'il en peut plus quoi. Donc c'est un état de stress hyper intense. Voilà, moi j'ai commencé à en faire en quatrième année de médecine, où du coup, juste avant un partiel, la première crise c'était vraiment la veille d'un partiel. Et en fait, à cette période-là de ma vie, j'avais quand même un emploi du temps ultra chargé. Je dormais pas beaucoup, j'avais un peu sacrifié mon sommeil en me disant, tu t'autorises à t'engager dans plein de projets différents en parallèle de la faculté, donc de la charge de travail universitaire. Mais par contre, le corollaire de ça, c'est que du coup, je sacrifiais mon sommeil pour réviser ou pour participer à ces événements. J'allais à des soirées jusqu'à 2h du matin et je me levais à 6h pour prendre le train pour rentrer chez moi, quoi. Donc, oui, moi, ça a commencé du coup en fac de médecine, mais parce que j'étais vraiment surmenée, mais je m'en rendais pas compte. Tu penses pas à 23 ans que t'es surmenée. Moi, je me voyais comme je savais que j'étais hyperactive et tout le monde me le disait tout le temps, en fait. Ils me disaient, mais comment tu fais? Je disais, moi, ça fait partie de moi, en fait. J'ai de l'énergie et j'aime pas m'ennuyer. Donc, au contraire, je suis capable d'en faire trop. Là, en fait, j'ai rendu compte que justement, j'étais pas infaillible, en fait. Et justement, j'étais capable de beaucoup, mais jusqu'à un certain seuil. Et finalement, aujourd'hui, je suis vachement reconnaissante d'avoir aussi cette partie de moi, en fait. Initialement, je le voyais comme une faiblesse. Et j'en parle aussi beaucoup, à tout le monde, hein. J'en parle sur mes réseaux, j'en parle dans mon livre, j'en parle en interview, j'en parle avec mes proches, j'en parle avec tout le monde, en fait, de dire, c'est ok en fait d'avoir aussi des failles et des faiblesses parce que moi ça m'a permis en fait de ralentir et de profiter justement un peu plus de ce que je vis en fait et d'avoir une vie un peu plus équilibrée. Et donc je suis vraiment reconnaissante en fait d'avoir aussi cette partie de moi.
Ouais, c'est un vrai garde-fou
qui est l'anxieuse du coup.
Ouais, c'est un vrai garde-fou qui t'apprend qui apprend à vivre différemment.
Complètement.
Ouais.
Complètement. Et oui, ça a influencé après pas mal de choix, hein, de décisions, de commencer à faire des crises d'angoisse, de vivre du coup avec ce trouble anxieux, parce que quand on commence à faire des crises d'angoisse et qu'on en fait de manière régulière, on rentre en fait dans un trouble anxieux généralisé. C'est que on a une anxiété constante en soi, on a toujours peur de faire une crise d'angoisse, c'est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête, et du coup, attention quoi, faut que tu sois hyper hyper à l'écoute justement de tous les signaux de ta fatigue psychologique, émotionnelle et physique, hein, parce que dès que tu dépasses le seuil, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est parti.
Aujourd'hui, du coup, t'as une hygiène de vie qui te permet de pouvoir être bien.
Oui, aujourd'hui, je me sens bien. Depuis quelques années, j'ai effectivement trouvé mon équilibre. En ralentissant, du coup, sur le côté projet, en apprenant à dire non. Je crois qu'une des clés, vraiment, pour moi, ça a été ça. D'arrêter de dire oui à tout, de croire que j'étais capable de tout mener en même temps. Et donc, d'apprendre à dire non. pardon, j'ai un chat dans la gorge. Dire non, c'est même vis-à-vis des autres. J'avais du mal à dire non, par exemple, à mes amis ou à la famille, parce qu'encore une fois, moi, dans ma personnalité, de vouloir bien faire, de vouloir tout faire, de montrer que je suis capable de tout gérer, bah c'était, j'avais envie de dire oui tout le temps aussi, de pas décevoir mes amis, de pas leur dire non je sais pas, à un dîner. Et j'ai appris aussi à dire non, à dire que je suis fatiguée ou là j'ai trop de choses en ce moment. Il faut que je me concentre sur moi. On se revoit dans quelques semaines. À faire des choix un peu plus pour moi. Et je pense que c'est pas de l'égoïsme que de faire des choix un peu plus pour soi, parce que quand on est bien avec soi-même, bah on est capable du coup d'apporter aussi aux autres.
Carrément, c'est ce
Et
qu'on
c'est
appelle
aussi le...
l'égoïsme positif, hein.
Ah bah tu vois, je connaissais
Ouais,
pas ce terme,
ouais.
mais tu vois, je m'en suis rendu compte aussi à travers mon métier. En fait, le burn-out qui concerne aussi les soignants, et d'autant plus dans le contexte actuel. Et on a vécu la crise du Covid comme aussi un signal d'alarme, hein, d'un signal de souffrance en fait de notre système de santé. Et nous, on était au cœur du système. Et en fait, on a tous un peu pris sur nous pour tenir la barre et faire ce qu'il fallait. C'est normal, c'est notre métier que de soigner. Donc on a fait ce qu'il fallait tous. Mais par contre, beaucoup, en fait, on a aussi pris conscience de nos limites. Et moi, en tant que soignante, j'ai besoin, en fait, d'être bien, d'être saine, d'être équilibrée, de me sentir bien pour pouvoir accompagner des gens qui, eux, sont en souffrance. Tu peux pas accompagner des gens si toi-même, tu es en souffrance. En fait, c'est trop dur, émotionnellement. C'est là où tu craques et c'est là où, malheureusement, t'arrêtes ton métier. Tu changes, t'arrives plus à tenir. Et c'est pas le but, évidemment. Enfin, moi, j'ai envie d'être un bon médecin, j'ai envie d'être présente. Donc, je m'en suis aussi rendu compte. Enfin, je me suis aussi rendu compte de l'importance de l'équilibre physique, mental, de se sentir bien mentalement, pour aussi dans mon métier. Donc voilà. Du coup, je me suis un peu perdue dans mes explications, mais oui, ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai trouvé, je pense.
Équilibre.
Mon équilibre.
Et à partir de quand, du coup, tu as compris le sens de médecin et personne médiatique?
Il n'y a pas si longtemps, comme quoi hein, ça peut prendre plusieurs années de trouver vraiment son chemin et de se sentir vraiment à sa place. Mais il faut pas abandonner, quoi. Il faut juste, comme on le dit depuis le début, je pense, écouter sa petite voix intérieure. Et on peut avancer progressivement, pas à pas, sur un chemin. Et puis, à un moment, ça devient limpide, en fait. Et moi, du coup, j'ai fait l'internat de médecine générale. Je suis revenue à Paris parce qu'en fait, je faisais mes études de médecine à Lyon. Je suis allée à Paris pour mon internat de médecine générale, qui est, pour le coup, c'est pas une ville qui me plaît énormément. Et pour le coup, c'est une ville qui retentit énormément sur ma santé mentale, qui a un impact négatif majeur sur ma santé mentale, parce que c'est une ville qui est ultra stressante. Où on a du mal à s'évader, on a du mal à. Moi, j'ai besoin de me connecter à la nature, et à Paris, bon, ouais, c'est pas le cas. Mais j'ai choisi délibérément d'aller à Paris en me disant, bah, c'est peut-être là où je vais réussir à concilier les deux, en fait.
Oui, parce
Et
qu'au moins
du
tu passes pas
coup,
ta vie dans un train.
exactement, je passais plus ma vie dans les transports, et j'étais sur place et je pouvais continuer mes autres activités, on va dire médiatiques, en parallèle de l'internat. Et puis en fait, c'est devenu assez limpide, en fait, de me dire. Bah, aujourd'hui, je suis médecin, mais je suis un médecin médiatisé. Je peux prendre la parole sur des sujets. On m'écoute, en tout cas, on me donne la parole, donc autant la saisir. Et du coup, bah, je peux faire passer des messages de santé, en fait, au plus grand nombre. Saisir, notamment avec l'explosion des réseaux sociaux, du digital. Bah, j'avais les moyens, en fait, justement, de faire passer ces messages de santé. au plus grand nombre, enfin en tout cas à d'autres personnes, pas qu'à mes patients justement au cabinet, mais élargir un peu l'audience. Et je me suis dit bah je vais faire ça. En fait, je vais utiliser. J'étais très présent déjà sur les réseaux sociaux et je me suis dit bah je vais utiliser mes réseaux sociaux pour parler de santé, donc faire de la prévention, santé publique, essayer de donner des petits conseils aux gens. Et c'est là où en fait tout ça a eu du sens. Enfin, je me suis dit bah voilà aujourd'hui d'avoir été médiatisé, de l'être encore un peu aujourd'hui, bah ça te sert à ça en fait. Voilà, ça te sert à prendre soin des gens, mais des gens que tu connais pas derrière un écran. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en fait, moi, je crois beaucoup, beaucoup en plus à la prévention. C'est vraiment un sujet qui m'intéressait énormément. Et donc c'est devenu assez logique en fait de faire ça. Et puis à ce moment-là, bah du coup, je me suis sentie sereine à ma place. Je me suis dit bah en fait, t'es médecin, mais t'es aussi une personne médiatisée et c'est ok. Et en fait, c'est pas un problème. Alors ça aide. De l'extérieur, ça peut être un problème pour certains. Et je sais qu'il y a certains confrères, consoeurs qui comprennent pas. Des soignants qui disent bah ta place elle devrait être à l'hôpital et elle devrait faire que ça, et ou dans les cabinets de ville et elle devrait faire que ça. Bah moi je pense pas en fait, je pense que c'est aussi utile de faire l'information médicale dans les médias et
ouais,
c'est
et
une autre
en plus,
manière de faire de la médecine.
Ouais. T'as un vrai, je le pense vraiment, t'as un vrai talent pour faire passer les messages, pour faire en sorte que ça soit intelligible. Et tu vois, des livres sur la santé mentale, j'en ai lu un bon nombre, et je trouve que ton livre est vraiment très bien fait parce que il y a un vrai côté pédagogique et avec des conseils que n'importe qui peut comprendre. Donc, voilà, c'est vraiment.
Ah bah, ça me fait plaisir. Bah, écoute, ça me fait plaisir. Bah, tu vois, effectivement, ce livre, il a été écrit grâce à mon expérience professionnelle, médicale, et aussi à mon expérience personnelle. Et donc, c'est vrai que forcément, quand.
Ça se ressent.
Quand on a vécu certaines difficultés, que ce soit voilà sur des maladies physiques ou des troubles psychologiques, forcément on a un regard aussi un peu différent et plus aiguisé sur.
Oui, il y a l'expérience. L'expérience, ça change tout. Partager son expérience, parce qu'en effet, et puis je pense aussi que tu as ce talent de pédagogue, le fameux professeur de maths, mais pas professeur de maths au final, mais.
Oui, mais ouais, puis ça me plaît. C'est vrai que j'aime bien, tu vois, j'aime bien faire ça. Oui, c'est peut-être mon côté professoral qui ressort, qui ressort maintenant. Mais ouais, j'aime bien faire ça et voilà. Du coup, je trouve du sens là-dedans. Et tu vois, après là, mon projet professionnel, il a encore pas mal évolué, mais je suis moins inquiète et je me sens voilà, je me sens légitime et je me sens à ma place et ça fait du bien aussi, quoi. Ça fait du bien de.
Ça apaise le mental.
Ouais, en fait, on m'a quand même toujours demandé, et ça, c'est assez dingue, mais c'est lié à voilà, tout ce que j'ai vécu, mais j'ai fait énormément d'interviews, et on m'a toujours demandé la même chose, quoi. Pourquoi vous faites ça? Quel est votre projet? Quel est le sens derrière tout ça? Comment vous vous engagez pour les autres? Parce qu'il y a aussi un sujet de rendre un peu ce qu'on nous a donné. Donc c'est dur de répondre à toutes ces questions-là quand t'es jeune. Bah ouais, quand t'es jeune et que t'as pas encore vécu grand chose, et c'est dur tout de suite d'avoir un projet hyper construit, intelligent. Enfin, donc voilà. Mais finalement, qu'on m'ait posé toutes ces questions-là, ça m'a aussi permis d'avancer plus vite. Donc c'était bien aussi.
On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Comment tu écoutes ton intuition?
Comment j'écoute mon intuition? Je le disais déjà en ralentissant mon rythme. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, je pense que l'intuition, c'est du ressenti, mais c'est aussi un peu de réflexion, quoi. C'est pas juste... c'est pas forcément se lancer tout de suite dans un projet, dans une prise de décision. Il y a quand même une petite part un peu de réflexion, mais c'est plutôt se dire pourquoi je ressens ça en fait. Alors pourquoi je ressens ça? Pourquoi ça résonne en moi en fait? Je pense que
ça va me raconter
ça en fait. Ouais, je pense que c'est plutôt ça en fait, mon intuition. C'est me dire ouais, j'ai une intuition, je sais pas, j'ai un bon feeling avec cette personne. Mais on peut quand même identifier pourquoi on a un bon feeling avec cette personne. Et parfois, c'est pas grand-chose, c'est juste parce que on a la même énergie ou parce que on a la même manière de voir ce projet. Donc, je sais que je peux me lancer avec lui. Ou tout simplement parce que c'est une personne qui est profondément gentille. Tu sens la gentillesse au fond, et donc tu sais que tu peux y aller quoi avec cette personne, parce que comme je disais, au pire ça marchera pas, t'arriveras pas au bout de ce projet si c'est par exemple ton associé, mais par contre tu sais que ça sera dans la bienveillance. Et donc il y a une part de ressenti, je pense, vraiment physique, émotionnel, mais il y a une part quand même d'analyse un tout petit peu derrière. Et c'est ce qui te fait aussi, je pense, vraiment grandir quoi dans tes prises de décision. C'est pas non plus tout chousse. C'est pas non plus tiens là je le sens bien, j'y vais. C'est quand même essayer d'analyser un tout petit peu le pourquoi.
Comment tu célèbres tes réussites?
Comment je célèbre?
Ouais.
C'est marrant, tiens. Avec les autres. Avec les autres, je trouve qu'une réussite seule n'est pas une réussite aussi savoureuse qu'une réussite partagée. Donc, si c'est une réussite personnelle, je sais pas, par exemple, valider mes études de médecine, passer ma thèse, j'espère dans quelques mois, je travaille dessus. Oui, c'est une réussite personnelle, mais si je la célèbre pas avec les autres, elle a aucune valeur. Enfin, je trouve qu'elle a moins de valeur, pardon, pas aucune valeur, mais elle a moins de valeur. Donc moi, je dirais que voilà, la réussite pour moi, elle est partagée. T'es content aussi, et inversement, je suis aussi très contente pour les autres. Ça, c'est vraiment, j'en vis pas les autres, ou je suis pas quelqu'un d'envieux, je suis pas quelqu'un de jaloux, je suis pas quelqu'un de, je vais plutôt m'inspirer des autres, et je vais être hyper contente de la réussite des autres. C'est vraiment, et j'aime justement la partager. Donc, ça serait plutôt, célébrer vraiment au sens premier du terme. C'est faire la fête, quoi. Faire la fête et partager les moments de réussite avec mes proches.
Et ta thèse, elle est sur quoi?
Ma thèse, elle est sur un sujet de médecine du sport. Parce que, justement, j'ai pas mal évolué aussi dans mon projet professionnel, et j'aimerais bien tendre vers la médecine du sport. Donc, c'est sur un sujet de déficit énergétique chez la femme sportive. Un peu précis, mais...
Non, mais c'est hyper intéressant.
Mais c'est hyper intéressant. Et là aussi, j'ai pris le temps aussi avant de faire ma thèse, parce que je voulais faire une thèse qui me ressemblait, sur un sujet qui vraiment allait me passionner, parce que c'est quand même un travail de plusieurs mois aussi, dans lequel tu t'investis beaucoup de temps. Donc, j'ai envie que vraiment, vraiment, sincèrement, ça m'intéresse. Et donc, tu vois, c'est mon troisième sujet de thèse. J'ai eu deux sujets auparavant, qui ont avorté pour plein de raisons différentes. Et finalement, voilà, j'ai ce sujet-là, pour le coup, que j'ai vraiment lancé, donc sur lequel je travaille. Et ça me passionne, ça m'intéresse énormément. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, cette thèse, elle rentre aussi dans mon projet professionnel. Et elle correspond au médecin que je suis aujourd'hui. Donc, je trouve ça trop chouette.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
Je crois que j'ai réalisé ça à plusieurs moments différents. Déjà, juste avant de devenir Miss France quand même, parce qu'il y a eu un moment quand même, il y a des moments où ta vie elle bascule, et juste avant l'annonce de la gagnante, on n'est plus que deux quoi. On n'est plus que deux, et à ce moment-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je pleure, parce que en fait, je me dis pourquoi pas moi. Je le sens, il y a un truc un peu à l'intérieur qui me dit ça se trouve c'est ça en fait l'aventure que tu cherchais dans ta vie. Donc je l'ai vécu à ce moment-là. Là récemment en fait dans mes choix de vie en fait. Je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie. J'ai suivi mon ex-compagnon, on est séparés, mais j'ai aucun regret. Je me suis aussi dit pourquoi pas là-bas aussi. Enfin, c'était pas pourquoi pas moi, mais c'était plutôt pourquoi pas là-bas. Et je suis partie quoi, j'ai changé de vie, je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie avec lui. Bah, c'était dingue, quoi. C'était une expérience de vie de dingue. Même si ça aboutit sur une séparation aujourd'hui pour plein de raisons que je ne vais pas expliciter, mais en tout cas, j'ai aucun regret. Ça m'a aussi changé. J'ai aussi appris plein de choses. Et je me suis le redit il n'y a pas très longtemps, justement, quand je suis revenue, du coup, m'installer en métropole, et je me suis dit, bah pourquoi pas une autre étape, en fait, pourquoi pas, alors que tout était écrit, en fait, j'avais l'impression que tout était écrit, je savais où j'allais dans mon métier, je savais où j'allais dans ma vie personnelle, on avait un projet de vie commune avec mon ex, c'était un peu tout écrit, tout tracé, facile, évident, et puis la vie a fait que, et en fait, là, encore une fois, j'aurais pu être hyper, hyper déstabilisée, et franchement, je l'ai été, on va dire que j'étais un... ébranlée, mais je me suis raccrochée encore une fois aux fondations, la famille, les amis, les envies pro, la nature pour moi c'est vraiment c'est un pilier aussi, c'est ce qui me recharge en énergie et tout. Et en fait je me suis dit bah pourquoi pas recommencer en fait. Bon bah à 30 ans c'est possible encore, enfin pas non plus. Voilà, je suis encore jeune, je me sens motivée, il y a plein de belles choses qui s'offrent à moi, donc ouais. Donc tu vois, il y a eu plusieurs moments, hein.
Ouais, et puis en effet, hein, parfois la vie, elle peut basculer du jour au lendemain sans qu'on le voie venir. Enfin, tu vois, moi, je me suis mariée au bout de 14 ans avec le père de mes enfants, et au bout de 17 ans, il m'a quittée du jour au lendemain sans que je voie vraiment le truc venir.
Ah ouais.
Et en fait, voilà, tu te prends une énorme claque dans la figure, mais tu te dis, ok, je sais qui je suis, j'ai fait un burn-out, c'est bon. En fait, oui, évidemment que ça chamboule, hein, ça perturbe bien, mais tu te dis, bah voilà, en fait, quand t'as foi en la vie, foi dans le destin, tu te dis, bon, bah voilà, ça va pas me
Ouais.
détruire, mais je continue à avancer, quoi.
Ouais, c'est exactement ça, c'est avoir foi en la vie. J'aime bien cette formule et je te suis vraiment dans cette vision de la vie. Et c'est un peu comme ça que me définissent mes proches aussi. Ils me disent souvent, ce qui est marrant en toi, c'est qu'il y a une force de vie. Il y a vraiment une force de vie. Mais j'ai de la chance parce que j'ai une belle vie. J'ai pas grand-chose. J'ai pas à me plaindre, quoi. Vraiment, j'ai vraiment une belle vie, j'ai vraiment de la chance, mais je suis consciente aussi que ça peut basculer. Bah oui, voilà, moi aussi j'ai vécu une séparation qui n'était pas forcément prévue. Et ça a chamboulé tout mon projet de vie. Et pour autant, je me suis dit, ben, plutôt que de voir, moi j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, quoi. Donc oui, il y a une partie de qui est vide et qu'il va falloir remplir, en tout cas qu'il va falloir travailler. Et là, bah, tu sais que ça va prendre du temps. Tu sais que oui, il va y avoir un peu de souffrance. Oui, il va
Oui,
y
c'est un
avoir.
deuil, hein, de toute façon, on passe par toutes les étapes du deuil.
Exactement, c'est un deuil. Mais par contre, c'est aussi pour peut-être du positif et il faut faire confiance en la vie, quoi. Voilà. Après, c'est du travail. Faire un deuil, le deuil, c'est du travail. On peut avoir besoin de se faire accompagner quand on est en souffrance psychologique, émotionnelle. Et il est là aussi le travail, c'est d'être conscient en fait de ce qui se passe actuellement dans sa vie et d'aller chercher aussi l'aide, d'aller chercher
Les
les personnes
ressources.
qui vont t'aider. Voilà, d'aller chercher les ressources, que ce soit pour ta santé, pour ton projet pro, pour ton projet familial. Il faut aller les chercher. Si t'attends que tout te tombe dessus par miracle, ben, je te le souhaite que ça arrive, mais
Ça mettra beaucoup
c'est
plus de
moins
temps. Ah
sûr
bah
que
c'est
ça
sûr.
arrive.
C'est une certitude.
Ouais.
Ouais. Bah, tu vois, moi
Et
je sais
donc,
que enfin, j'ai pris rendez-vous chez la psy direct. Je pense que c'est limite la première personne à qui j'ai envoyé un message, tu vois, parce que tu dis, bah, à un moment donné, quand tu te prends une énorme claque dans la figure, il y a des choses, tu peux pas t'en sortir. Enfin, tu peux t'en sortir seule. Tu vois, j'avais la discussion avec un ami, il dit, ah, mais moi, je vais m'en sortir. Je dis, oui, mais dans combien de temps? Et est-ce que tu es sûre de vraiment t'en sortir tout seul? T'as la possibilité de gagner du temps. Enfin, ça n'a pas de prix.
complètement, complètement gagner du temps et puis aussi faire ce travail qui fait que tu vas comprendre pourquoi que tu vas donner du sens aux épreuves que tu vis et qu'en fait elles vont te renforcer plutôt que te détruire parce que ben la souffrance elle peut en miroir te faire aussi prendre conscience de tes forces
Sûr.
et du bonheur aussi. Et donc du coup, c'est pas forcément En fait, les épreuves te peuvent te détruire, mais en tout cas, si tu peux faire en sorte qu'elles ne te détruisent pas, et qu'au contraire, elles te construisent. En fait, ça renforce un peu tes fondations.
Parce que c'est la logothérapie qui dit qu'on peut trouver du sens dans toute chose, dans toute épreuve. Et je la cite souvent parce que pour moi, c'est l'exemple même. C'est Agnès Jeudy que tu connais sûrement, qui est un auteur français, qui fait partie des top 10 romancières en France, qui a perdu un de ses fils et qui dit que depuis, elle survit, dans le sens, elle vit mieux pour son fils. Et elle est devenue écrivaine, j'allais dire, oui, grâce à son, au décès de son fils, parce que c'est pendant la maladie où elle a commencé à écrire. Et vraiment, tu vois, enfin, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ont vécu des choses vraiment, voilà, la perte d'un enfant. Je pense à Philippe Croison qui a perdu ses bras et ses jambes.
Ouais.
Et c'est des personnes qui te disent, sans ces drames dans leur vie, ils n'auraient pas la vie qu'ils ont aujourd'hui et ils aiment leur vie aujourd'hui.
Oui, oui. Oui, alors il y a différents, on va dire, grade.
Là, c'est oui, là, ouais, là je prends les épreuves maxi. Hein.
Ouais, mais des épreuves maxi qui pourraient te faire perdre complètement foi en la vie. Et bien, au contraire, ils ont réussi à les transformer en étapes, jusqu'en épreuves. Et on sait pas comment on va réagir, tu vois, face à une épreuve terrible de la vie. On peut se découvrir aussi dans les abîmes de notre être, mais aussi on peut aussi découvrir une force. Et je pense que on a tous en fait une force et qu'on peut qu'on peut la travailler, quoi. Et c'est là où vraiment on a besoin d'avoir les bonnes ressources autour de soi.
D'ailleurs, bon, Philippe, il a fait 2 tentatives de suicide, hein, avant de se dire un jour, au bout de 6 ans, soit ma vie elle est sur un canapé, j'ai même pas été capable de me suicider, soit j'avance et je me mets en chemin.
Ouais. Exemple type.
C'est quoi pour toi la réussite?
Bah, la réussite, je dirais, c'est de se sentir bien dans sa vie, quoi. Sentir bien dans sa vie. C'est elle peut être tellement plurielle, la réussite, en fait. Ça peut être pour certaines personnes purement de la réussite professionnelle, la réussite personnelle, la réussite juste d'avoir du bonheur. Pour moi elle réside vraiment dans le bonheur du quotidien, voilà, dans le bonheur du quotidien. Si je me sens bien dans ma vie à l'instant T, ben j'estime que j'ai réussi. Il n'y a pas trop d'objectifs professionnels dans ma réussite. Je pense que réussir professionnellement, c'est un levier pour te donner déjà les moyens de bien vivre, parce que je suis quand même persuadée qu'il faut quand même avoir les moyens pour bien vivre, parce que quand t'es en grande précarité, bah c'est quand même extrêmement difficile d'être heureux quand même. Et c'est aussi un levier pour te donner juste confiance en toi. Te dire que t'as une place dans la société, quoi. Après, voilà, moi, ma réussite, elle est plutôt axée quand même sur les petits bonheurs du quotidien. Donc, c'est les bonheurs partagés, quoi. C'est mon couple, c'est ma famille, c'est mes amis. Et j'en ai pas beaucoup et je les chéris. Voilà. C'est justement avoir un équilibre vie pro, vie perso, et faire mon sport. Voilà, moi, ça me rend heureuse. D'avoir mes petits moments de sport, voilà, c'est très simple. Enfin, pour moi, c'est très simple.
Bah, c'est bien. Non, mais c'est pas. Enfin, malheureusement, enfin, souvent, enfin, c'est une question que je pose à chacun de mes invités, et souvent, on te dit, bon, bah voilà, il y a une version avant et une version après de la définition de la réussite, et c'est ce que tout le monde dit. C'est en effet, c'est de se sentir libre, c'est de se sentir à sa place, c'est se sentir bien dans sa peau, là où potentiellement, enfin moi en tout cas, c'était ma définition il y a peut-être 10 ans, c'était d'avoir tel poste, tel salaire et telle place dans la société.
Mais moi aussi, hein, je l'ai vu comme ça. Hein. Mm. Pendant un moment, la réussite, je le voyais vraiment comme avoir mon diplôme, être un médecin reconnu, voilà, je voulais être genre un grand médecin, aller révolutionner la médecine, tu vois, tes envies de... de grandeur, mais ce qui est normal, hein, tu rêves aussi grand, tu vises loin quand t'es tout jeune, tu commences. Et je le voyais vraiment purement par la réussite professionnelle. Et finalement, c'est ce que je répète aussi beaucoup dans les interviews, c'est qu'on peut chacun réussir à sa manière et par des chemins complètement différents. Et finalement, la réussite, elle ne doit pas être dictée par la société, quoi. Ta réussite personnelle, c'est ouais, c'est de te sentir bien dans ta vie, comme tu dis, bien dans tes baskets, et de faire ton bout de chemin, quoi. Voilà.
C'est quoi pour toi l'échec?
Pour moi, l'échec, ça serait, c'est plutôt de faire du mal. Ce serait plutôt moi ça l'échec en fait. C'est faire du mal aux autres. Par exemple, tu vas indirectement sans le vouloir ou ça pour moi c'est un échec. Et puis alors perdre du temps c'est un peu un échec aussi pour moi. disons m'investir dans un projet qui par exemple n'aboutirait pas. C'est pas purement le fait qu'il n'aboutisse pas qui me ferait du mal, c'est plutôt le temps consacré. mais bon, j'essaie de à travers aussi les expériences des uns et des autres, en fait, on se rend vite compte que y a pas d'échec, il y a des apprentissages, quoi. Et ouais, je pense que vraiment un vrai vrai gros échec, ça serait vraiment de consacrer tout son temps et toute son énergie à un seul projet, un seul point de sa vie, un seul levier et de ne pas aboutir à l'objectif escompté. Donc c'est pour ça, je pense que il faut aussi savoir voilà, peut-être enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision dans la vie, c'est que je suis pas forcément sur un seul projet ou un seul objectif à la fois, quoi. J'ai tendance à me dire, je vais prendre soin de ma vie perso, de ma vie pro aussi, familiale.
À tout reposer sur un point de ta vie.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Marine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Waouh. Bah, je pense qu'elle serait quand même satisfaite. Hein. je pense qu'elle serait satisfaite parce que quand même, pour l'hyperactif que je suis et que j'ai toujours été, bah, j'ai quand même une vie bien remplie et qui dans laquelle je m'amuse bien, quoi. Je suis toujours en mouvement, dans l'énergie et ça, c'est quand même agréable. Je pense qu'elle serait assez fière. Je pense qu'elle serait étonnée de l'assurance que je peux avoir aujourd'hui parce que à côté de ça en fait j'ai un peu de personnalité, quoi. C'est-à-dire que je peux être assez confiante, assez rassurée parce que je fais confiance en la vie, parce que je suis bien entourée, parce que je suis organisée, donc assez confiante là-dedans, et en même temps je suis quelqu'un d'hypersensible. Et qui du coup peut aussi émotionnellement être vite dépassé, avoir peur, me sentir fragile, me sentir vulnérable, etc. Donc oui, je peux paraître très confiante pour les autres, c'est ce que je peux dégager, et sereine. Et en même temps, je peux être hyper sensible, un peu fragile. Et donc du coup, je vais avoir besoin aussi parfois d'être un peu coucounée, d'être rassurée, quoi.
Ouais, découvrir son hypersensibilité, c'est arriver à transformer quelque chose qui peut être mal vécu en une vraie force. Et tu vois, sur mon site, je mets un test d'ailleurs justement pour permettre aux personnes de savoir si elles sont hypersensibles, parce que moi, ça m'a changé la vie de découvrir que j'étais hypersensible, parce que maintenant, j'arrive à surfer avec là où avant je le subitais.
Oui, parce que tu peux être déstabilisé par des émotions négatives que tu reçois de la part des autres ou juste parce que tu doutes et de laisser place en fait à ces émotions négatives, leur donner trop d'importance, les prendre trop à cœur, comme tu disais, ça peut être extrêmement déstabilisant et ça peut te faire un peu trop douter. Mais au contraire, je trouve que d'être quelqu'un qui sent, qui ressent, qui se connecte aux émotions des autres, ça peut énormément t'aider, quoi. Et c'est là où on en revient justement à l'intuition, à l'instinct, c'est que du coup, t'arrives vite à connecter aux autres et à sentir, quoi. Voilà, sentir les énergies et tout. Et moi ça j'adore, en fait. Par contre, tu vois, j'ai travaillé aussi là-dessus. Parce que moi, quelqu'un en face de moi qui est stressé, il met la boule au ventre. Ah là là, c'est terrible. Il me met une boule au ventre et je prends son stress. Et en fait, je me dis, oh là là, mais je peux pas prendre son stress. C'est pas mon sujet. C'est pas mon problème. C'est pas. Donc oui, maintenant, je travaille à ça aussi, à me dire, sers-toi de ces émotions comme un indicateur, un moyen de créer du lien. Moi, dans mon métier, d'avoir de l'empathie comme médecin généraliste, mais aussi
et
en
pas
même
trop
temps
non plus, parce que ouais, faut savoir se protéger.
Voilà, de savoir se protéger. Et de temps en temps, justement, je prends beaucoup de recul, quoi. Et je me dis, ok, là, c'est le moment de faire une pause, c'est le moment de m'éloigner un petit peu, de me recharger positivement et de me détacher un peu.
Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toi, cette petite Marine de 6 ans?
Moi, j'aimerais lui dire quelque chose, tout simplement, c'est peut-être de se libérer un petit peu de la pression qu'elle se met, quoi. Pression de perfection que je me suis toujours mise et que je mets encore un tout petit peu aujourd'hui. J'ai vachement travaillé là-dessus, mais ça m'aurait soulagé de le réaliser un peu plus jeune, un peu plus tôt, et d'accepter, voilà, justement, qu'on peut pas être parfait tout le temps et qu'on a nos failles, qu'on a nos défauts, et plus de faire avec et de me libérer un peu de cette pression-là, quoi. Ça, c'est ça m'aurait permis, je pense, un peu plus de profiter un peu plus, de me libérer, ouais.
On dit que quand dans la vie on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi le renoncement?
Il y en a eu beaucoup. Moi, en fait, initialement, j'aimais pas du tout cette phrase. En fait, c'était la grosse problématique, moi, là, de ces 10 dernières années de ma vie, c'était choisir, c'est renoncer, quoi. Et renoncer, c'était terrible pour moi. Comme je te le disais, dire non, c'était inconcevable, quoi. C'était abus de faiblesse, c'était décevoir d'autres personnes. Et choisir, c'est renoncer, c'est une phrase qui m'a vraiment traumatisée, quoi. Franchement, j'étais là, je ne veux pas choisir. Mais à tel point que choisir un plat au restaurant, c'était horrible pour moi, quoi. Et finalement, j'ai transformé un peu cette phrase en choisir, c'est avancer. En fait, il faut prendre des décisions, quoi qu'il arrive. De ces décisions-là vont découler des conséquences positives, négatives. Tu peux pas le savoir à l'instant T. Mais ce que tu fais, c'est que tu prends une décision instinctive et réfléchie à l'instant où tu la prends. Voilà. Et donc, faut pas avoir de regrets par rapport à au fait de d'avoir dit non, le fait d'avoir raté des choses ou d'avoir au contraire d'être parti sur un chemin parce que c'était ton choix au moment où tu l'as fait, en fait. Et il faut faire des choix pour avancer. Si tu es constamment dans l'attente de ce qui va se passer et que tu veux pas décider, eh ben tu vas perdre du temps. Enfin, tu va pas vivre pleinement, tu seras constamment dans l'incertitude et dans l'attente. C'est dommage, en fait. Donc voilà, j'ai transformé un peu cette phrase. Choisir, c'est avancer. Voilà.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie?
Je sais pas, moi je dirais déjà choisir. Pour moi, ça a été une difficulté, en fait. C'est bête. Mais il y a beaucoup de gens qui disent quand on a trop le choix, c'est difficile d'avoir trop le choix. Pour le coup, c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est arrivé, quoi. C'était difficile pour moi d'avoir trop de choix, de qu'est-ce que je dois faire dans la vie, qu'est-ce qui va me plaire. Et je pense l'autre difficulté, nos difficultés, ça a été de vivre un peu avec mon trouble anxieux d'apprendre à le gérer. Ça a été une phase un peu compliquée. Et puis récemment ma séparation, quoi, ma nouvelle vie, la nouvelle page, quoi, le nouveau chapitre, ça a été une difficulté aussi, mais franchement, j'ai aucun regret, quoi. Je crois que tout amène à quelque chose de beau, quoi qu'il arrive.
Il y a Il y a Patrick Bruel qui a écrit une chanson, je sais pas si tu la connais, qui s'appelle Encore une fois. Et en gros, elle
Non,
commence
ça me parle
par
pas.
quand l'amour est tombé par terre, tu crois que tu vas mourir, mais on survit. Et après, il dit voilà, on peut aimer encore une fois, encore plus fort. Et cette, enfin moi, quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois, je me suis mis à pleurer.
Ben
Et en effet, tu peux de chaque épreuve, de enfin, on peut créer ça en une opportunité de se réaligner et de rencontrer des personnes qui nous correspondent plus.
ouais, tout à fait. Bah aujourd'hui, moi je me sens hyper épanouie et bah je suis de nouveau amoureuse et je me sens trop chanceuse et je vois les choses un peu différemment par rapport à la manière dont j'ai pu être en couple précédemment et dont je et la manière avec laquelle je vis mon couple aujourd'hui et je crée mon couple aujourd'hui. Et du coup, j'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai vécu avant parce que j'ai grandi en fait. Et je pense que ouais, aujourd'hui mon couple il est peut-être un peu plus serein, peut-être un peu plus équilibré. Voilà, j'ai appris un petit peu des quelques erreurs que j'ai pu faire et j'espère que voilà, ça va être pour un long nouveau chapitre.
Je vous le souhaite et j'embrasse Stan et je le remercie.
Oui, m'a parlé de toi.
Ouais, c'est lui, je l'ai interviewé il a fait partie de ma première année d'interview. Je l'avais interviewé pendant le confinement. Donc ça date. Ouais.
Ouais, ça date, c'est rigolo, hein, tu vois, comme quoi aussi le monde est petit, les chemins se croisent, il y a des
Ouais.
ponts qui se font.
Ah, mais c'est fou. C'est, enfin, moi, je, enfin, maintenant que je regarde les signes et tout, il y a des trucs où tu te dis, mais c'est hallucinant. En fait, si tu ouvres les yeux et tu prends un peu de recul sur la vie, tu te dis, il y a des connexions partout et des gens qui reviennent dans ta vie de façon différente et tout est lié, en fait.
Ouais, complètement.
C'est quoi tes plus grandes peurs?
J'en ai plusieurs. Moi, je peux dire que l'isolement, la solitude, je pense que c'est une peur. J'ai besoin d'être entourée, de me sentir aimée quand même. Je me sens bien avec moi-même, mais je voudrais pas le rester trop longtemps. Tu vois? Je suis pas encore à cette phase de ma vie où je peux partir un mois en vacances toute seule avec mon livre, quoi, tu vois. Disons que je peux le faire quelques jours, mais pas au-delà. Donc oui, je pense que moi, voilà, être seule, ne pas avoir construit une vie de famille et tout, ça fait une peur. La maladie, pour moi, c'est une peur. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier aussi, un peu pour lutter contre la maladie, donc celle de mes proches, la mienne, enfin voilà. Et puis oui, après j'ai eu une peur pendant quelques années là, c'était un peu justement de passer à côté de ma vie quoi, un peu de me dire je sais pas où est ma place, je sais pas à quoi je sers dans ce monde. Mais cette peur-là du coup elle s'est estompée. Elle s'est estompée, je me sens vraiment plus à ma place aujourd'hui.
Ça veut dire quoi, du coup, pour toi, être aligné?
Bah c'est le sujet qu'on a abordé pendant toute la discussion, mais si je devais la résumer, être aligné, ça voudrait dire pour moi être en accord avec ses valeurs et sa vision de la vie. Voilà, je pense que c'est ça. Donc être sur un chemin qui correspond à tes valeurs et à ta vision de la vie. Et après bah tu prends ce chemin avec quelques personnes et t'avances comme ça quoi.
De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
De quoi la pire aujourd'hui? Bah c'est surtout je pense quand même d'être venue à bout de mes études quand même parce que ça a été quand même un peu mon marathon à moi d'avoir tenu bon, d'avoir tenu le cap. Et bientôt, j'espère de passer ma thèse. Ça sera vraiment l'accomplissement, la fin des études. Je l'attends là avec impatience, mais ça va arriver. Et ouais, je suis assez fière quand même d'avoir tenu bon parce que j'ai quand même fait beaucoup beaucoup de choses en même temps et d'être arrivée au bout de ces études, ouais, c'est un accomplissement.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui?
Un conseil que j'aurais aimé recevoir. Bah là, encore une fois, on en a abordé pas mal, mais personnellement, moi, justement, j'aurais aimé qu'on me dise vraiment plutôt un peu, on s'en fout de ce que pensent les autres, arrête de vouloir plaire à tout le monde, quoi. C'est vraiment le truc, j'aurais aimé qu'on l'ancre dans la tête et qu'on arrive à faire germer cette idée un peu plus tôt.
Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est peut-être de prendre le temps de construire son projet. Et en fait, j'avais justement du mal à refuser, à renoncer à certains projets et tout. Et en fait, on m'a dit, ne vois pas. Ah oui, non, c'est pas ça. Pardon. J'éclaircis un peu ma pensée. C'est plutôt projette-toi, en fait, projette-toi dans 5 ans ou dans 10 ans. Et fais en sorte juste d'aller vers la personne que tu as envie d'être, en fait. Et parfois, du coup, ça veut dire renoncer à certaines choses à l'instant T parce que c'est mieux pour toi à l'avenir, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui vit, franchement, je vis le moment présent, hein, je vis à fond. Mais par contre, quand il s'agit de prendre des décisions et tout, j'arrive quand même à les prendre en me projetant.
Ouais, voir lequel est le sens dans le projet global.
Voilà, en me disant, est-ce que ces décisions-là vont vraiment m'apporter du positif vers la construction de ma vie, quoi, de la personne que j'ai envie d'être dans ma vie. Et donc, on m'a donné ce conseil au moment où j'étais un peu perdue. En fait, justement, je savais pas entre les études, les projets à côté, médias, carrière, etc. Et on m'a dit non, mais là, ok, tout de suite, ça paraît hyper compliqué de choisir et de décider. Mais qui t'as envie d'être dans 10 ans, quoi? À quelle personne t'as envie de ressembler dans 10 ans? Qu'est-ce qui va te plaire dans 10 ans? Comment tu vas réussir à garder la passion et tout? Et c'est là où, du coup, c'est devenu plus clair de me dire, j'ai envie d'être médecin, quoi. J'ai envie de faire ce métier.
C'est quoi tes prochains défis?
Mes prochains défis. Bah, ma thèse, c'est quand même un petit défi, effectivement. De réussir à reprendre quelques petits défis sportifs, parce que là, j'ai passé une phase, mais tu vois, comme quoi, tout va ensemble, j'ai aussi passé une phase là de blessure. Bon, bah, clairement, ça venait aussi de la blessure psychologique, de la fatigue émotionnelle et le fait d'avoir voulu tenir tout en même temps, tenir la barre, et ben, tu vois, du coup, j'ai mon corps qui est un petit peu lâché. Donc revenir un peu au niveau, on va dire, physique, me libérer un peu des quelques blessures. Mais bon, j'ai travaillé, je suis en rééducation et ça va de mieux en mieux. Donc pouvoir relever mes petits défis sportifs qui me feraient plaisir. Et puis, tout simplement continuer à avancer, quoi, construire mon petit foyer, tout ça.
Il y a une personne qui nous écoute, qui est, est-ce que dans la zone de confort qu'on appelle inconfortable, qui a peur d'avancer, qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil?
Bah, c'est toujours, alors moi les conseils que j'aurais envie de donner, c'est vraiment d'être entouré. Je trouve que c'est difficile quand même d'avoir une vision suffisamment large et globale d'un projet quel qu'il soit, hein, si on est vraiment seul, en fait, si on est focalisé seul sur cet objectif. Donc je pense qu'il faut être accompagné, il faut essayer de se faire accompagner, quoi. Par des pros dans n'importe quel domaine, son entourage au maximum. Mais si on se sent soutenu, accompagné, bah c'est quand même plus simple. C'est quand même plus simple de prendre des décisions et du coup de réussir à avancer. Et puis je dirais, c'est facile à dire, mais ne pas avoir peur justement trop de l'échec, parce que quoi qu'il arrive, le process va être intéressant. C'est pas toujours l'objectif final n'est pas toujours finalement le plus intéressant. Le plus intéressant parfois, c'est justement ce process de prise de décision, de changement, d'outils que tu mets en place pour. Et c'est ça qui finalement va te faire grandir. Donc peut-être de prendre un peu de distance avec l'objectif pur et de voir plutôt le chemin aussi, quoi.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Comment?
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
J'ai envie de dire merci, moi, vraiment, vraiment, vraiment à mon entourage proche. Vraiment, parce que moi, ils m'ont vraiment permis de garder les pieds sur terre, de rester connectée justement à mes valeurs et à la personne que je suis profondément. Qui ont été capables de me dire, là, tu déconnes, là, tu fais n'importe quoi, là, tu vas trop loin, on ne voit plus, juste reviens nous voir, tout simplement. Donc, merci à toutes ces personnes qui ont été mes proches, 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 en fait. Donc, ce soit ma famille, voilà, les ex-amoureux, l'entourage, les amis proches. Et puis peut-être, ouais, merci aussi. En vrai, je pourrais me dire aussi un peu merci juste d'avoir osé, alors que j'étais toute jeune, d'avoir osé me lancer du coup dans d'autres expériences. Et ça m'a vraiment vraiment ça a vraiment changé ma vie, quoi. Donc sans regret aujourd'hui, vraiment, je me sens complètement à ma place, et c'est parce que j'ai osé à 18 ans, quoi, à 19 ans.
Il y a des moments où tu as regretté?
Y a un moment où j'ai vraiment eu peur de me perdre et où je voyais pas trop le sens, justement. C'est vraiment, en fait, le seul regret que j'ai dans ma vie, c'est à Miss Monde. Je veux pas forcément tout le temps parler des Miss, mais pour le coup, c'est vraiment un moment où, en fait, j'étais à cette élection. C'était une expérience extraordinaire. J'ai rencontré des femmes du monde entier. On était 130. Donc, j'ai discuté avec 130 femmes de cultures différentes. C'était, franchement, pour l'ouverture d'esprit, c'était génial comme expérience. Mais j'ai pas vu ce que ça pouvait m'apporter au-delà. Et donc, j'ai pas participé à cette élection de manière hyper investie. Je me suis un peu, je l'ai vécu aussi un peu sans grande implication, on va dire. Je me suis pas beaucoup impliquée. Et en fait, j'ai été qualifiée, je me suis retrouvée dans le top 5, hein, de cette élection. Et à ce moment-là, on a un discours, on doit dire pourquoi on a envie de devenir Miss Monde. Et en fait, j'ai vu pas la réponse à cette question, quoi. Donc, je dis quelque chose d'assez bateau. Juste, bah, ça me ferait plaisir de découvrir le monde, les cultures. Les gens de ce monde, voilà. Et en fait, j'ai un peu regretté après de pas avoir montré plus d'envie et de pas avoir saisi à quel point aussi cette opportunité, elle aurait pu être extraordinaire, en fait. Et parce que donc j'ai terminé deuxième de cette élection et j'ai discuté avec la présidente de Miss Monde à l'époque quelques minutes après le résultat et elle me dit mais ça aurait dû être toi. Et je lui dis ah bon? Elle me dit oui, ça aurait dû être toi, mais en fait on n'a pas senti senti en toi l'envie, on n'a pas senti vraiment ça faisait partie de ton projet, quoi, de ta vie. Et effectivement, ça en faisait pas partie, tu vois, à ce moment-là. Et parce que j'avais pas réalisé, et aussi parce que j'ai eu hyper peur, tu vois, de l'ampleur, en fait, de ce changement de vie et tout. J'avais envie de revenir à ma vie un peu normale, et là je me retrouve à Miss Monde et on dit tu vas signer pour un an de voyage dans le monde et de, alors qu'en fait.
Et là, c'est dans le monde, c'est même plus, c'est pas que en France, quoi. Là, c'est encore un autre.
Ah oui. Et là, c'est dans le monde. Et à ce moment-là, juste, en fait, tu vois, la peur a pris le dessus. La peur a vraiment pris le dessus, face à l'inconnu, tu vois, et à l'ampleur, en fait, de ce changement de vie, quoi. Mais après, je me dis, j'ai pas de regrets dans le sens où je me dis, je suis très bien là où je suis aujourd'hui. Tu vois, mais juste à ce moment-là, j'ai pas été en pleine capacité de saisir l'opportunité. Tu vois, je me suis sentie pas à la hauteur, quoi.
En tout cas, la celle qui a été élue peut te remercier. Je sais pas ce qu'elle est devenue, mais.
Eh ben, c'est une très chouette nana qui, elle, avait vraiment, ça faisait vraiment partie de son projet de vie, quoi. Elle s'était investie, elle avait tout donné pour, et elle est devenue, bon, elle a été une super mission, j'ai rien à dire là-dessus, enfin, et peu importe. Mais en tout cas, derrière, elle a fait une belle carrière et on suit toujours et, enfin, voilà, on est toujours plus ou moins connectés, on voit ce qu'on fait. Et elle a l'air hyper épanouie et tout, donc c'est chouette.
t'as changé la vie de quelqu'un.
Ouais, exactement.
Merci beaucoup, Marine. Les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur toi, bon, évidemment, peuvent te suivre sur Instagram. Et puis, je recommande vraiment vivement ton livre En pleine forme chez Marabout, qui est vraiment une pépite.
Ah bah écoute, c'est gentil, ça fait énormément plaisir. Ouais. Je sens que tu l'as vraiment lu et que t'as bien saisi aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc oui, cet ouvrage, après, il peut parler au plus grand nombre parce que c'est vraiment un ouvrage de prévention, quoi. C'est comment prendre soin de son corps et de son esprit, comment identifier justement les petits signaux, lesquels sont-ils. Voilà, j'explique, je donne pas mal d'infos médicales et de petits conseils aussi derrière sur comment essayer d'améliorer un peu sa santé physique et mentale.
Et puis bon, il y a le contenu et la forme parce qu'il est vraiment ludique, pédagogique. Enfin, il y a des petits dessins qui expliquent bien les choses. Je trouve que c'est vraiment, enfin voilà, tout le monde devrait l'avoir dans sa bibliothèque et le lire.
Ah bah écoute, merci beaucoup Charlotte, c'est très gentil. J'espère, moi, bon, tu vois, mon objectif vraiment avec ce livre, c'était encore une fois de me dire, je vais toucher d'autres personnes et si ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne ou 10 personnes, bah c'est mission accomplie quoi.
Je
te remercie en tout cas pour cet échange.
Merci à toi.
Merci à toi, Charlotte. Et puis, longue vie à ton podcast.
C'est gentil. Merci.
Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout, de ne jamais oublier de te dire Pourquoi pas moi ?